Alain Barbalbi, je suis éleveur sur Amira. J'ai vu par rapport aux jeunes agriculteurs que le parc doit protéger et inciter à l'installation des jeunes. Quel va être le pouvoir concret du parc? Qui va gérer ça? Est-ce que c'est le comité? Est-ce que voilà. Par rapport, je voudrais juste rajouter, par rapport aux fonciers, pour identifier les secteurs agricoles, quel va être votre pouvoir pour que cela reste agricole?
Le parc en tant que tel, on l'a vu, il n'a pas de pouvoir réglementaire. Et d'où l'importance que les communes, dans la méthode qu'on appelle, soient bien associées. Mais la question que vous venez de poser est fondamentale. C'est le sol, hein. C'est vraiment très 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 important cette question. C'est pour ça que dans ce projet, il y a la directive territoriale d'aménagement, il y a les schémas de cohérence territoriale, et il y a les réglementations des communes. Et bien, en fonction du travail qui va être fait, on va mobiliser. Mais les communes concernées, bien sûr, avec l'appui du parc, sous l'impulsion du parc, mais les communes mobilisées, eh bien, tous ceux qui peuvent nous aider à acquérir ce foncier. Il y a la SAFER, mais il y a les établissements publics régional, État-région, il y a aussi les collectivités, et demander qu'on étudie la possibilité d'avoir un fonds d'intervention en partenariat. Rien n'interdirait, vu l'importance du foncier qu'on a, ça fait partie des propositions que j'ai soumises, que nous ayons un propre fonds d'intervention du parc, alimenté en partenariat, si les collectivités en sont d'accord, par la région, par le département, par l'État, à travers le PFR et des conventions de ce type-là. Très important. La deuxième, par exemple, en bureau, dès maintenant, on a pris une décision, tous ensemble, il y a 2 heures de ça, de lancer une étude qui nous permette de caractériser les terres. Je sais, par exemple, sur ma commune, je me suis adressé au SERPAM par rapport aux activités justement d'agro-pastoralisme. C'est bien beau d'avoir des zones agricoles sur un plan d'occupation des sols, sur le PLU, ça fait des zones. Mais si on n'est pas sûr qu'elles sont viables, que ce sont bien les bonnes terres, avec la meilleure des intentions, on peut avoir un résultat catastrophique. D'où, ce que j'ai fait sur ma commune, mais d'autres, je pense, l'ont fait aussi, on s'est adressé au SERPAM, qui est un organisme spécialiste de ça, pour qu'il analyse les terres et qu'il nous dise, pour l'agropastoralisme, voilà les terres que nous vous conseillons de mettre de côté, indépendamment des propriétaires, après on se débrouille avec les propriétaires, de mettre de côté dans votre plan d'occupation des sols. Voilà ce que vous pourriez mettre dessus, des chèvres, bientôt les ovins, quand les chèvres auront fait le tas, ça vous préservera, c'était l'idée qu'on avait derrière, des risques incendies, ça permettra que le milieu ne se ferme. Voilà. Bon, et bien cette étude, qui est disponible dans pas mal de communes, mais plutôt du bas du parc, va être étendue à tout le territoire du parc, là, dans les jours qui viennent, on va lancer ce travail avec l'appui du SERPAM. Je propose que, Jean-Pierre, si tu veux dire un mot, parce que c'est des sujets aussi sur lesquels, en tant que président.
Merci Marc de me prêter quelques instants la parole, je l'emprunte volontiers, pour réagir à quelques éléments qui ont été soulevés par l'assistance. Mais au préalable, je voudrais simplement faire remarquer que les documents qui ont été présentés balayent pratiquement tous les enjeux et qu'ils sont remarquablement faits. Et je voudrais en féliciter tous ceux qui en sont à l'origine et toute l'équipe qui court autour de toi, Marc, ont préparé ces réunions multiples dans les cantons. Et je sais combien à la fois André Aschieri, Françoise Dubois et toute l'équipe y ont contribué. Muriel également y ont contribué. Vous l'avez bien compris, il s'agit de rechercher un équilibre dans l'avenir entre la nature et la vie dans ces territoires présumés entourer ce parc régional. Nous sommes en phase d'élaboration de la charte. On n'en est pas encore au statut du PNR. Et la charte, c'est, si ce n'est le contraire, ça n'est pas du tout une loi. La charte, dans son principe, c'est un document partagé. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces réunions et le public nombreux qui y assiste est particulièrement encourageant. Cette recherche d'équilibre, c'est à nous de la faire. Et personnellement, en tout cas au nom de la ville de Grasse, de la communauté d'agglomération, je voudrais y apporter toute la contribution possible et mettre sur la table du partage un certain nombre de démarches qui sont peut-être déjà un peu engagées et que l'on peut débattre. En plus, je pense que c'est le bon moment pour le PNR. Ça arrive à point nommé, et puis finalement on se rend compte que dans la vie, parfois les choses traînent, parce que ça a un peu traîné quand même depuis 1992, les premières réunions sur le PNR, ça fait quand même plus de 15 ans. Ça a mis du temps à venir sur les fonds baptismaux. Mais c'était peut-être pas plus mal, parce qu'entre-temps, un certain nombre de phénomènes sont intervenus. D'abord, cette prise de conscience de plus en plus forte, de plus en plus partagée, et c'est un bien, cette prise de conscience du fait qu'on ne doit pas abîmer notre nature. Elle se généralise et elle se partage. Et puis, je vais avoir l'audace de dire que la crise dans laquelle nous entrons et dont nous ne sommes pas encore sortis, loin s'en faut, va quasiment nous obliger à rechercher, et tu l'as souligné tout à l'heure, Marc, à rechercher non pas les moyens d'une autarcie, mais un peu plus de raison dans les échanges d'un même territoire. Donc je crois que ça arrive au bon moment, d'autant que on constate aussi, et vous le savez très bien, une mutation démographique, une évolution des populations du sud vers le nord, et que ce qu'on a appelé l'exode rural devient presque ou va devenir une forme d'exode urbain. On le constate en tout cas. Et que là, il y a peut-être, si on la canalise bien ensemble, il y a de l'énergie qui pourrait nous amener à trouver cet équilibre entre le respect du patrimoine, à la fois naturel et immobilier, on va le dire, et la vie. Alors, quelques idées concrètes sur lesquelles on peut avancer. L'agriculture a été évoquée par un grand nombre d'intervenants. Et là, il y a des potentialités que l'on sent. Mais c'est pas simple. Il ne s'agit pas, comme tu l'as dit, de rêver. Il y a le problème du foncier à régler, du statut du foncier. Et il y a le problème des débouchés. Nous avons au sein de la communauté d'agglomération acquis récemment sur la commune d'Auribeau 2 hectares de terre pour la rendre à l'activité agricole. Et on sait bien que dans les années à venir, on en aura besoin de la production agricole locale. On le sait, il faut anticiper sur cela. Mais c'est vrai aussi que l'agriculteur doit trouver son équilibre économique. Il ne va pas uniquement faire de l'agriculture pour se faire plaisir. Il faut qu'il vende, il faut qu'il produise et il faut qu'il soit dans un équilibre économique à rechercher. Donc le problème du statut, des aides que l'on peut apporter à de jeunes agriculteurs pour s'implanter sur des territoires et puis des débouchés. Tu as évoqué, nous avons des cantines, des marchés. Pourquoi ne pas traiter directement avec des producteurs locaux? Que les hôtels, tu l'as évoqué, pourquoi ne pas contractualiser entre des collectivités un peu importantes, comme c'est le cas des nôtres, sur le moyen pays, voire le littoral, pour qu'il y ait une main tendue, un partenariat tout à fait équilibré entre la production et la consommation, dans la qualité qui est recherchée aujourd'hui. Puis je veux quand même évoquer aussi ce qui est la tradition du pays grassois. Les plantes aromatiques de parfumerie et pourquoi pas médicinales. Nous avons ce concept, André, d'Observatoire mondial du naturel. On voudrait que la tradition du pays grassois soit respectée dans la production des composants d'un certain nombre de produits de consommation, qu'ils soient alimentaires ou de cosmétiques, à redévelopper des essences naturelles. Alors là, il y a un problème d'altitude, mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est trouver les partenariats dans ce domaine-là aussi, et je vais participer dans les semaines qui viennent, je l'ai dit l'autre jour à Andon, à une mission sur le développement des savoir-faire traditionnels locaux, qui peuvent concerner à la fois l'agriculture vivrière, mais aussi l'agriculture des essences, et je pense que là on peut trouver aussi des éléments de développement respectueux et même utilisant la nature de façon positive. Sur le problème du problème, sur le sujet du tourisme, nous pouvons mettre sur la table la labellisation qui est celle de la ville de Grasse depuis 2004 de ville d'art et d'histoire. Il n'y a que deux communes dans le département qui sont labellisées, c'est Menton et Grasse. C'est une labellisation qui n'est pas simple à avoir. Et les maires savent que j'ai proposé que cette labellisation, nous l'étendions au pays. Et la ville de Grasse, dans toute son histoire, a eu de tels liens avec toutes les communes du pays grassois, dans tous les domaines économiques, sociologiques, religieux, qu'aujourd'hui, ce patrimoine peut être, sur le plan culturel, un vecteur touristique de qualité. Et sur le plan touristique également, je crois qu'il faut privilégier la nature. Et je ne pense pas que le PNR veuille non plus se voir envahi de touristes. Je ne pense pas que ce soit son vœu. Mais d'un autre côté, une dimension touristique assise sur la culture et sur la nature, avec modération, si je peux dire, pour réamener un développement et retenir aussi des populations in situ. Alors vous le savez, j'en ai fini, je préside le SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui regroupe 29 communes. Et là, je pense que je vois Catherine Jouve qui dirige le SCOT, qui est là parmi nous. Et elle sait que je lui ai demandé, d'abord avec la commune de Grasse et la communauté d'Aglo, de faire en sorte qu'on participe à toutes les commissions pour qu'on puisse partager au mieux nos expériences. Et le PNR, pour tous les documents d'urbanisme, les grandes orientations devront se prendre au sein de réunions de cette nature, au travers du schéma de cohérence territoriale. Donc là, il y a un vrai travail de partenariat à mettre en œuvre pour tout ce qui pourrait concerner l'évolution des droits des sols. Voilà, j'en ai fini. En tout cas, je trouve que tout est prêt pour que vous preniez en main, au sein des commissions, des quatre commissions, quatre ou cinq, qui seront mises en place le 13 mars, moi je vous invite à aller chacun dans au moins une d'entre elles. Merci.